Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse ensemble. Que le Seigneur bénisse vos cœurs. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Si vous êtes des habitués, soyez les bienvenus. Si vous êtes jeunes, on est content d'être avec vous ce matin pour louer le Seigneur. Je le disais hier, on est très content d'accueillir comme membre de l'Église Carole. Carole a des qualités personnelles qui sont vraiment magnifiques et on gagne, l'Église gagne à l'accueillir voilà, en son sein. Et puis c'est une super pianiste, hein, hein, vraiment une très très bonne pianiste, hein. Voilà, c'est vraiment chouette, hein. Je vous invite à prendre l'Évangile de Luc, Évangile de Luc, chapitre 15. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Luc 15. Ce moment sera suivi d'un moment de célébration de la scène. Il y en a qui ont entendu le message hier déjà. Hein. Ça va être le même. Hein. Un enfant arrive sur la plage avec ses parents. Il n'y a pas grand monde. Et il fait chaud, il fait beau. Et la mer est bonne. Donc très vite, les parents ont installé les serviettes, ont mis le parasol et puis l'enfant va se baigner. Et de temps en temps, il se retourne pour voir où sont les parents. C'est normal, hein, il veut se rassurer, donc il se retourne, il voit les parents et il continue à profiter de l'eau. Elle est vraiment bonne. Et puis, il se passe un petit peu de temps, voilà, il est bien, il profite vraiment. Et quand il se retourne, les choses ont changé. Il y a plein de monde sur la plage. Les gens ont mis leurs serviettes, ils ont déployé tous les parasols et l'enfant ne sait plus où se trouve l'endroit où sont ses parents. Impossible de voir où sont ses parents. Il regarde à gauche, il regarde à droite, au centre, il plisse les yeux, il essaie de voir, il essaie de reconnaître. Impossible. Alors il remonte la plage dans l'espoir de les trouver et il ne les trouve pas. Il s'égare au milieu de la foule, au milieu de ces gens. Les parents, au bout d'un moment, se mettent inquiets, se mettent à rechercher leur enfant. Voilà. Ils se mettent à sa recherche. Le père va chercher son fils. Il ne sait pas où il se trouve. Il va à l'endroit où il s'est baigné et il n'est plus là. Alors que va faire le père? Le père est vraiment très inquiet. Il va ratisser toute la plage jusqu'à ce qu'il trouve son fils. Imaginez le contraire, imaginez la chose impossible. Le père est fatigué dans sa recherche. Et à un moment donné, il s'arrête, il se dit, c'est bon, je vais retourner à ma serviette, je suis crevé. C'est impossible, n'est-ce pas? C'est un père, voilà, il est inquiet, il est poussé dans son inquiétude à rechercher son fils jusqu'à ce qu'il le trouve. Et quand il l'a trouvé, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il l'engueule, hein. On pourrait s'attendre à ça, hein. Non, c'est un père compréhensif. Alors il prend son enfant dans les bras et il le ramène avec lui. Voilà, c'est un bon père, hein. C'est pas le père qui va venir mettre une claque à son fils parce que il s'est enfui ou il s'est égaré. Cette manière d'agir du père envers son enfant, qui cherche son enfant jusqu'à le trouver, c'est la manière d'agir de Dieu. Le Dieu que nous connaissons est ce Dieu-là. C'est un Dieu d'amour qui va se mettre à la recherche de tous. La Bible dit que les hommes sont égarés dans le monde. Alors peut-être que si vous n'êtes pas chrétien ou si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'impression de ne pas être égaré dans ce monde. Mais la réalité, elle est tout autre. Nous sommes égarés dès lors que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et de manière volontaire, quelquefois, de manière involontaire, bien souvent, mais nous trouvons loin de Dieu, le Père, nous sommes égarés, nous sommes perdus. Alors que va faire Dieu? Il ne reste pas insensible, il ne reste pas sans rien faire. Le Seigneur va se mettre à la recherche des hommes et ayant trouvé un homme perdu, un homme égaré dans le monde, quelle est la réaction de Dieu? l'ayant trouvé, sa joie est immense, sa joie est grande. Il prend cet homme dans les bras et le ramène auprès de lui, parce que le désir de Dieu, c'est de vivre en communion avec tous les hommes. Le Seigneur, Dieu le Père, Dieu est un Père, on peut le connaître comme un Père qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous. Dieu le Père va envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour ramener d'entre les hommes beaucoup auprès de lui. Et la mission de Jésus-Christ, c'est ça. Elle est rappelée dans un verset de l'Écriture qui dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. C'est la mission de Jésus-Christ. Sauver celui qui est perdu. Le chercher et le trouver et le sauver. Il y a un bon nombre d'entre nous qui pourraient donner notre témoignage, comme Carole a fait ce matin, pour dire comment Dieu nous a trouvés et quelle joie que Dieu nous ait trouvés. C'est une grâce formidable que nous avons reçue dans notre vie que de connaître Dieu aujourd'hui comme un Père et Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie. C'est une joie formidable. Quelquefois, on a l'impression que c'est nous qui avons cherché Dieu et trouvé Dieu. Je ne sais pas si... Quelquefois, on a l'impression que ça vient de nous, que c'est nous qui avons tout fait. Voilà, nous l'avons cherché et trouvé. Mais la réalité est tout autre. Dans la Bible, il est dit que nul ne cherche Dieu. C'est-à-dire que nul n'a la capacité de trouver Dieu en réalité. Pourquoi ? Ben juste après, il est dit « tous sont égarés ». C'est comme l'enfant sur la plage. Voilà, il a beau chercher, il ne trouve pas ses parents. Ben, l'homme dans le monde, l'homme loin de Dieu, égaré dans le monde, ne peut pas trouver Dieu. Mais dans son amour, dans sa grâce, dans sa grande bonté, c'est le Seigneur qui prend l'initiative. Il envoie Jésus-Christ, dont le rôle est de venir chercher et sauver celui qui est perdu. Cette recherche, elle est belle. Elle témoigne de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Elle témoigne de l'amour que Dieu a envers les hommes. Cette recherche, c'est vraiment significatif de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu vis-à-vis des hommes. Peut-être qu'on considère Dieu comme un Dieu très dur et très jugeant et très condamnant. Mais si la condamnation existe et peut demeurer dans la vie d'un homme, ce n'est pas le désir de Dieu que la condamnation reste, mais que cette condamnation soit levée et que l'homme soit innocenté et sauvé dans sa grâce. Le Seigneur voit l'homme égaré dans le monde et il ne dit pas « je m'en lave les mains ». Au contraire, voilà, il se met à bouger, à agir dans son amour pour nous. On rencontre beaucoup de personnes qui nous cassent le moral. C'est vrai, Sans doute vous connaissez des gens qui ont cette capacité à nous saper le moral. Il y a des gens qui brise les cœurs. Il y a des cœurs brisés dans les foyers, il y a des cœurs brisés dans les relations les uns avec les autres, parmi les amis, ou dans les amitiés, il y a des cœurs brisés. Il y a des personnes qui nous écrasent par leur personnalité. Il y a des personnes qui sont aimables avec nous, mais par intérêt. Mais il y a peu de personnes qui soient encourageantes avec nous, vraiment encourageantes. C'est une reconnaissance à Dieu lorsque, auprès de nous, nous trouvons des personnes comme ça. Si vous avez auprès de vous une personne qui vous encourage vraiment tous les jours, vous pouvez remercier le Seigneur, parce que c'est une denrée rare. C'est quelque chose de précieux. Le mot qui désigne celui qui encourage, le nom qui désigne celui qui encourage, n'existe pas en français. Vous avez remarqué ça ou pas ? Celui qui prêche, c'est un prédicateur. Mais celui qui encourage, on l'appelle comment ? Un encourageur. Ah, il a triché, Dimitri, il était là hier. Oui, exactement. En anglais, il y a un mot, mais il faudrait que je me tourne vers Suzanne, là, parce que je pense à Suzanne, parce qu'elle est anglophone. Il y a le mot cheerleader, un truc comme ça. C'est mon accent qui ne va pas. Tu vois ? C'est celui qui encourage. Mais je crois que l'image, c'est le père qui est en train d'encourager son fils dans l'effort, il voit son fils qui peine, et lui, il est là à côté, et puis il le porte en criant vers lui, en l'encourageant. Allez, vas-y, vas-y, tu vas y arriver. C'est un peu ça le cheerleader ou pas? Bon, c'est aussi une pom-pom girl, me dit ma femme. Bon, on laisse tomber la pom-pom girl. On voit l'encourageur. Mais le mot là, eh bien, on va le retenir parce que le mot, il est, eh bien, pourquoi pas, il est sympathique. Encourageur. Hein? Dieu est notre premier encourageur. C'est vrai, hein. Quand on est chrétien, on le sait et on a besoin de le savoir toujours. Si on a besoin d'encouragement, on se tourne vers Dieu parce que c'est lui notre encourageur par excellence. Le prophète Élie, il l'a expérimenté. Vous vous souvenez? Voilà, là je vais terminer une série de prédications, trois messages sur qui va m'encourager. Le prophète Élie, il était extrêmement découragé. Il était au bout du rouleau. Et il n'y avait personne autour de lui pour le relever, le fortifier. Mais le Seigneur, dans sa grâce, va venir vers lui. Et il va connaître l'immense bonté de Dieu qui relève, qui soutient, qui défend, qui va jusqu'au bout pour que son serviteur se remette sur pied et travaille à nouveau pour lui. Élie a expérimenté ça. Mais David aussi. Vous vous souvenez de David qui, sa famille avait été emmenée loin de lui, il était désespéré. Et David va s'encourager lui-même. Quand on est chrétien, on a la possibilité, les ressources suffisantes pour nous encourager nous-mêmes quand il n'y a personne pour le faire pour nous. Mais il l'a fait d'une manière, en s'appuyant sur l'Éternel, en se confiant en Dieu, l'encourageur de nos vies. Et nous avons cette possibilité. Si nous ne nous confions pas en Dieu, notre encourageur, ou nous ne nous appuyons pas sur Dieu, notre encourageur, comment trouver le courage dont nous avons besoin pour vivre jour après jour dans une belle foi ardente au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Christ a envoyé son Saint-Esprit dans la vie des croyants pour qu'il demeure en nous. Et ce Saint-Esprit, c'est le consolateur de nos vies. C'est celui qui est avec nous, qui est pour nous, qui nous défend, qui parle à nos cœurs, qui nous encourage, mais qui fait aussi une chose. Le Saint-Esprit nous pousse à être à notre tour des encourageurs pour les autres, des personnes qui encouragent les autres. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu, le Père, pour nous, pour nos vies. Peut-être que nous n'avons jamais pensé à être un encourageur pour un autre, mais c'est une belle mission devant le Seigneur. C'est la mission du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Consolateur, qui est un Consolateur aussi. Le Saint-Esprit est un Consolateur. Et nous pouvons être aussi un Consolateur, c'est-à-dire un Encourageur dans l'Église, dans notre vie pour les autres. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble, à travers un premier texte que je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc. Voilà, il va apparaître sur l'écran. C'est un texte qu'on connaît bien. Quand on est chrétien, c'est la parabole de la brebis perdue, on connaît par cœur. Mais on va la relire ensemble. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui, c'est-à-dire contre Jésus. Les pharisiens et les scribes, c'était les autorités religieuses à l'époque de Jésus-Christ. C'était des hommes qu'on considérait comme des bergers en Israël qui étaient censés s'occuper de tous, prendre soin des autres. Alors ces hommes-là disent de Jésus, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est-à-dire que c'est une critique là. Alors Jésus leur dit cette parabole, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. C'est un beau texte, hein ? Le Seigneur ne veut pas qu'un seul soit perdu. La mission de Jésus-Christ, là, elle est grande, elle est belle. Il est venu chercher et sauver celui qui est perdu dans ce monde. Mais tant qu'il en restera un qui ne soit pas ramené à Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ n'aura de cesse de chercher et de chercher pour trouver une âme qui vienne à lui dans la foi, dans la repentance et dans la foi. Et vous voyez que le Seigneur, quand il a trouvé cet homme, cette femme, c'est une joie immense qu'il y a dans son cœur. Et la valeur que nous avons à ses yeux se voit là, il se réjouit avec tous parce que j'ai retrouvé ma brebis, c'est ce qu'il dit, celle qui était perdue. Le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est ce berger dont nous avons besoin chacun dans notre vie. Mais quand on est chrétien, nous avons la possibilité, l'immense privilège de le connaître ainsi. Il est un berger, c'est-à-dire qu'il prend soin de notre vie jour après jour, avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. C'est un Seigneur merveilleux. C'est un bon berger. Mais là, il s'adresse au berger d'Israël. Il est critiqué et il va leur retourner la parole en quelque sorte en disant « Moi, le berger, je vais aller vers ceux que vous êtes en train de laisser ou de délaisser, les gens de mauvaise vie ou les gens que vous appelez de mauvaise vie. Effectivement, je suis en train de manger avec eux parce que moi, le bon berger, je veux prendre soin de ces vies. Je veux prendre soin de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont aveugles, de ceux qui sont prostitués, ou de celles qui sont prostituées, ou de celles qui sont perdues dans ce monde. Je veux prendre soin de ces gens. Je veux parler à leur cœur. Je veux leur parler du royaume de Dieu et de la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu à travers moi. » Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire: le rôle que vous ne remplissez pas, vous les bergers d'Israël, moi, je vais le remplir à votre place. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas tolérer une telle situation. Les gens qui se disent bergers et qui ne travaillent pas comme des bergers, pour le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas normal. Alors, il dit cette parabole. Pour parler de lui-même, je vais chercher, moi, et je vais trouver une par une, ces brebis perdues, pour les ramener dans la communion au Père, dans l'Église du Père. Nous, les chrétiens, quand on lit cette parabole, on s'identifie très facilement avec la figure de la brebis perdue. Et nous sommes tellement reconnaissants, parce que c'est vrai qu'on peut se reconnaître comme celui ou celle que nous étions avant. Nous étions perdus, mais aujourd'hui nous avons été trouvés par Dieu et nous chantons au Seigneur pour le remercier de tout, le remercier de nous avoir trouvés. C'est vrai, mais nous avons aussi besoin, et je crois que c'est le sens de cette parabole, de nous identifier comme un berger ou de nous identifier au bon berger. De voir que son action, la manière dont il agit, c'est la manière dont nous devons agir aussi aujourd'hui pour les autres. Et nous avons, je crois, besoin de nous identifier à Jésus-Christ, ce bon berger, pour être à notre tour des bergers pour les autres. Des personnes qui prenons soin les uns des autres, de manière très forte. Mais on va en parler. Il y a un livre que certains connaissent, qui porte un titre très beau. Mais ce n'est plus ce titre-là aujourd'hui. Il portait ce titre. Et c'est un livre qui est destiné aux parents pour donner des conseils et s'occuper des enfants, de leurs enfants. Et le titre de ce livre, c'est « Un berger pour son cœur ». C'est beau, hein, le titre, hein ? Et ça dit beaucoup de choses, ce titre-là. C'est-à-dire que l'auteur de ce livre invite les parents à être des bergers pour le cœur de leurs enfants. Et en réalité, ces bergers que sont les parents, les premiers encourageurs pour leurs enfants, ce sont des personnes qui ont la possibilité de parler de Christ, de témoigner de Christ, de montrer l'exemple d'une vie avec Christ pour qu'à la fin, Christ vienne dans le cœur de ses enfants. Mais vous savez que tant que Christ n'est pas dans le cœur de nos enfants, ce sont des enfants égarés et perdus dans le monde. Et voilà, je crois que nous avons une responsabilité qui est sérieuse en tant que parents de nous occuper de nos enfants comme ça, comme un berger, comme un bon berger, pour leur cœur, les encourager sans cesse et sans cesse. Quand ils commencent, il y a des enfants qui... les enfants, même quand ils ont la foi, restent des personnes fragiles. Ils ont encore beaucoup de questionnements, Carole l'a dit dans son témoignage. Hein, il y a, même quand on grandit, on a beau avoir la foi, il y a des questions très sérieuses et qui peuvent nous ébranler. Et quelquefois, nous éloigner de Dieu lui-même. Et que fait-on quand on constate que nos enfants ou ceux qui sont autour de nous commencent à s'éloigner? Bien, en réalité, on ne tarde pas pour aller les encourager de manière à ce qu'ils ne s'éloignent pas, n'est-ce pas? On va les chercher, on parle à leur cœur, on est des encourageurs, on les encourage à rester près du Seigneur. Dans Matthieu 18, la parabole est la même, sauf que là, c'est une parabole qui est adressée aux disciples, plus aux pharisiens et aux scribes, mais aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le chapitre 18, on peut dire que c'est l'Église. Jésus parle dans le cadre de l'Église. Et il dit ici, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et qu'une d'entre elles s'égare, donc on retrouve la parabole. Ainsi votre Père, la conclusion, qui est aux cieux, ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Là, c'est plus le mot brebis, c'est le mot petit. On ne parle plus là de l'homme pécheur dans le monde que le Seigneur aime et veut sauver, mais on parle de quelqu'un qui croit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez le verset 6 de Matthieu 18, il est question de le petit qui croit en mon nom. Et le petit qui croit en mon nom, eh bien, c'est celui qui vient d'arriver dans la foi, ou celui qui est fragile dans sa foi, comme peut l'être un enfant. Et il y en a qui ont cette fragilité. Il arrive que nous soyons dans cette fragilité. Il peut arriver, par les coups de la vie, que nous nous éloignons un peu, beaucoup, de la présence de Dieu. Notre responsabilité à chacun, c'est de faire attention et d'encourager. J'ai assisté à une scène un peu particulière cet été. J'étais sur la plage. J'ai parlé beaucoup de plage, hein, vous avez remarqué. Ça doit être le mauvais temps. Hein. On aspire à ce que l'été arrive vite encore là. J'étais sur la plage. Et il y a un homme qui était allongé sur une planche, sur le ventre. Il était loin dans la mer. Et on voyait cet homme qui ramait avec ses bras, qui essayait d'atteindre le rivage. Mais c'était compliqué parce que la mer se retirait, il y avait beaucoup de vent, et on voyait qu'il n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'il avait beau battre des bras, il ne bougeait pas. Et même, il avait tendance à reculer et à partir au loin. Et on était nombreux sur la plage à le regarder. Et on le regardait. Et on se disait, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Non, mais c'était une scène un peu particulière. Il y avait deux sauveteurs et un jeune homme et une jeune femme et qui regardaient aussi cet homme. Et puis, il battait des bras et on voyait qu'il s'éloignait encore. Et moi, à un moment donné, quand même, je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un va réagir? Est-ce que quelqu'un va se mouiller, va sauter dans l'eau pour aller au secours de cet homme? Ah, heureusement, c'est arrivé. Hein. La fin est heureuse. Il ne s'est pas noyé. Hein. C'est la jeune femme qui est allée. Voilà. Une jeune femme est allée, elle s'est mouillée, elle a pris sa planche, elle est allée le secourir. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur nous demande d'agir. D'être des sauveteurs pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Ne pas attendre, ne pas tarder quand on voit qu'il y a une faiblesse, une fragilité, un problème. On est ces sauveteurs, ces encourageurs qui ne tardons pas pour aller aider celui qui est à côté de nous. Vous savez que l'apôtre Paul va dire que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Le mot naufrage, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Voilà, il y a certains qui ont fait naufrage, qui ont coulé par rapport à la foi. Et il faudrait savoir ce qui est arrivé exactement à ces personnes, mais je crois que le Seigneur ne désire pas qu'aucun fasse naufrage. Mais pour qu'aucun fasse naufrage, ou il faut qu'il y ait autour, voilà, de nous des personnes qui fassent attention, qui prennent soin, qui sauvent, qui encouragent. Voilà, c'est très important. Regardez ce verset dans Jacques 1. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mes frères, c'est adressé à nous, hein. Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'un autre l'y ramène. Comme le Seigneur Jésus-Christ a agi pour nous, par amour pour nous. C'est la même attitude, c'est le même comportement. Que quelqu'un le ramène. Et quand nous le ramenons, nous faisons une grande œuvre pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que celui-là sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous pouvons être pour les autres, non pas un sauveur. Enfin, il y a le sauveur, c'est Jésus-Christ, hein, mais des sauveteurs, voilà, pour les autres. Voilà, Dieu nous encourage à être cet autre, hein, et qu'un autre l'y ramène. C'est qui, cet autre? Ben, ça peut être moi, hein, ça peut être vous. En tout cas, Dieu nous encourage vraiment. Il y en a un qui a compris ça, qui a compris que lui devait agir de cette manière-là. Il n'a pas attendu. Il a entendu la volonté de Dieu, il a considéré cette volonté comme étant importante pour lui-même, et cet homme-là est devenu un encourageur pour les autres. Mais un bel exemple pour nous. On en a déjà parlé de cet homme, hein. C'est Barnabas, c'est Matthieu qui en a parlé lors d'une prédication, vous vous rappelez? Barnabas, c'est un homme qui a su encourager les autres, c'était sa vie, c'était sa mission, c'était son ministère devant le Seigneur. Mais ce n'était pas un homme extraordinaire ou super, qui était comme un super héros, je ne sais quoi, voilà, inatteignable. Hein, c'était un homme comme nous. Voilà. Mais il a compris une chose importante. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas était un homme de bien, c'était un homme bon. On a dit que Dieu était bon, et parce qu'il était bon, il allait chercher et sauver celui qui était perdu. Barnabas était bon. C'était un homme qui pratiquait le bien attendu par Dieu. Celui qui est bon, c'est celui qui aime ce que Dieu appelle bien, et qui déteste ce que Dieu appelle mal, et qui pratique le bien de Dieu. Et Barnabas, c'était vraiment un homme décidé pour ça. Voilà, sa bonté s'est exprimée envers l'église d'Antioche. Alors, je voudrais dire deux mots, parce que l'église d'Antioche, c'était une église qui venait de naître. C'était une église composée de membres qui étaient fragiles dans leur foi encore. Et ces membres de l'Église avaient besoin d'être encouragés dans la foi. Mais qui va s'y coller? Qui va encourager l'église d'Antioche? Eh bien, Barnabas s'y colle. Barnabas, c'est celui qui va rester pendant un an dans cette église en exhortant. Alors le mot exhorter, c'est, vous pouvez le remplacer par encourager. Il encouragea tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Pourquoi il a encouragé chacun à rester attaché au Seigneur? C'est pour qu'aucun s'égare. Si chacun était attaché fermement au Seigneur, il n'y avait pas possibilité pour eux de s'égarer ou de s'éloigner. Donc Barnabas, il a encouragé l'Église de cette manière-là. Sa bonté, ce qu'il a fait, n'est pas naturel. C'est un homme qui était rempli de l'Esprit Saint, plein d'Esprit Saint et de foi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint l'a conduit à faire cela. Il était en communion avec Dieu, en communion de pensée avec Dieu lorsqu'il a fait cela. Bon, on parle de l'église d'Antioche. Mais de quoi notre église a-t-elle besoin actuellement? Notre église a besoin de Carole. Et c'est une réponse à cela, n'est-ce pas? Notre église a des besoins et ces besoins doivent être comblés. Qui va encourager l'église? Carole. Carole a donné son témoignage en devenant membre de l'église ou en désirant être membre de l'église pour servir dans l'église. Qui va encourager l'église à Caen? Qui va encourager le projet de l'église ici? Qui est un beau projet? On a le désir de se développer. Qui va aider au développement de l'église? Il y en a beaucoup déjà. Mais peut-être que parmi nous, il y en a encore qui ont besoin de se lever pour dire « Moi, je serai un encourageur. Moi, je serai quelqu'un qui va vraiment aider l'église à grandir et à se développer. Je vais regarder autour de moi s'il y a des besoins, s'il y a des personnes dans le besoin. » pour les aider. Qui va encourager? Je crois que Barnabas nous encourage en faisant comme lui, en montrant l'exemple. Là. Pardon? Barnabas, ça veut dire fils d'encouragement, ça veut dire encourageur, exactement. Et regardez, je termine là-dessus. La suite du texte, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. C'est la parable de la brebis perdue, hein, vous vous souvenez? Barnabas, il se rend à Tarse, où se trouve Saul. Saul, c'est l'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, voilà, il a trouvé celui qui était perdu dans Tarse, hein, il l'amène à Antioche. Barnabas, il agit exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Il encourage comme le Seigneur Jésus-Christ a encouragé. Saul était à Tarse depuis 10 ans, au moins. Certains pensent qu'il était depuis toutes ces longues années à Tarse. Pourquoi il était à Tarse? Parce qu'il a trouvé sur son chemin des décourageurs. Barnabas, lui, l'avait amené dans l'église de Jérusalem, et dans l'église de Jérusalem, on l'a mal accueilli. Matthieu avait dit ça déjà, hein? Il y a... des gens qui avaient dans la tête qu'il était un ancien criminel de chrétiens, donc ils se méfiaient beaucoup de Saul, et ils ne l'ont pas accueilli. Alors Saul, de manière normale, naturelle, est retourné à Tarse. Et toutes ces longues années, il était là-bas. Et Barnabas se disait, mais qui va pouvoir encourager l'église d'Antioche? Qui va être un encourageur avec moi? Et il a pensé à Saul. Alors il est allé chercher et ramener celui qui était à Tarse. Il a, en quelque sorte, il a réhabilité Saul, il a sauvé Saul, il a secouru cet homme qui est devenu l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, c'est l'encourageur des chrétiens par excellence. Alors que le Seigneur vraiment nous encourage, je crois que Barnabas a atteint l'objectif de Dieu, il a sauvé son frère, il a sauvé un frère merveilleux. Pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas nous donner comme mission d'être ce type de personne pour ceux qui doivent être encouragés? Voilà, je voudrais conclure par ça. Sois un encourageur. Alors là, c'est la photo qui est mal placée. Bon, enfin bref. Sois un encourageur dans l'église. Voilà, sois celui qui tire l'autre quand il est découragé. Que nous soyons ces chrétiens-là, ces hommes et ces femmes-là. Voilà, je vais prier et puis on va célébrer le nom du Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour ta parole qui est merveilleuse, qui nous rappelle quel Dieu tu es, quel merveilleux Dieu tu es. Seigneur, tu es plein de bonté à l'égard de tous les hommes. Seigneur, cette bonté, elle est évidente, car tu as envoyé Jésus-Christ, qui lui-même s'est livré sur la croix de Golgotha pour mourir à la place des hommes, qui étaient condamnés éternellement. C'était, Seigneur, leur mérite, leur seul mérite de mourir éternellement, parce qu'ils s'étaient volontairement éloignés de toi, ne voulant pas de toi. Mais Seigneur, ton désir à toi, c'est de secourir ceux qui sont perdus dans ce monde et qui peuvent considérer qu'ils ont besoin de toi, qui ne te trouvent pas, qui n'arrivent pas à te trouver. Il y a aussi des hommes comme ça dans le monde, des hommes qui sont tellement découragés parce qu'ils voudraient tellement de toi, mais ils ne savent pas quel chemin prendre. Alors tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, et tu as dit, c'est par lui que vous venez à moi, que vous pouvez venir à moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne sait pas comment venir à Dieu. Eh bien, la réponse est celle-ci. Jésus-Christ est le chemin par lequel nous pouvons venir à Dieu. Si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, alors Dieu nous ramène à lui, nous réconcilie avec lui. Et nous ayant trouvé, sa joie est immense. Seigneur, je voudrais vraiment te remercier personnellement et remercier, l'Église te remercie ensemble, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite. Seigneur, fais de nous des personnes qui encouragent les autres, des encourageurs et des encourageuses. Seigneur, bien souvent, ce sont des personnes proches de nous qui ont besoin d'être encouragées. Ce sont des femmes qui ont besoin d'être encouragées par leur mari. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être encouragés par leurs parents. Ce sont des frères qui ont besoin d'être encouragés par d'autres frères. Seigneur,